On est en direct sur Radio Piquet, c'est Kat qui vous parle. Je suis en compagnie de Nico, de Steph à la technique et d'Aurélien Casta qui est venu à Brest. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Donc nous sommes mercredi 7 novembre. Et donc Aurélien Casta est venu à Brest, c'est un sociologue, chercheur à l'Université Paris-Nanterre et de Lille.
Oui, les deux.
Les deux. Tu as publié en 2017 le salaire étudiant, financement et démocratisation des études à la dispute. Qui es-tu et pourquoi tu t'intéresses, tu t'es intéressé au salaire étudiant? Qu'est-ce qui fait dans ton parcours que tu t'es intéressé à ce sujet-là?
Ah bah c'est une longue histoire. On en parlait avant l'émission, mais pour la faire courte, en fait, moi, j'ai découvert cette revendication parce que j'étais syndicaliste étudiant. Et j'ai adhéré, en fait, en 2003, à un syndicat qui défendait le salaire étudiant. Et donc, ça m'a intrigué, d'autant que je faisais des études d'économie à Lille. Et voilà, c'était l'aspect très économique et en même temps très, très intéressant politiquement. M'a tout de suite intéressé, voilà.
Ok. Donc, en fait, tu as fait une thèse.
Oui, après j'ai fait une thèse, oui, parce que, voilà, j'ai continué mes études et je me suis dit que, mine de rien, parce qu'après, voilà, en luttant aussi pour le salaire étudiant, on se rend compte aussi qu'il y a des angles morts, notamment historiques. À l'époque, je connaissais très très mal l'histoire, en fait, de cette revendication qui remontait à l'après-guerre en France. Je ne savais pas non plus que ça avait pu être défendu dans d'autres pays. Et voilà, j'avais quelques éléments qui m'indiquaient notamment qu'après-guerre en France, on avait été tout près d'avoir un salaire étudiant qui était adopté. Et donc je me suis dit, voilà, il y a matière à faire une thèse, notamment encouragé par mon directeur de thèse qui était Bernard Friot, avec qui j'ai travaillé pendant des années, que vous connaissez bien à Radio Piquet, je crois, et qui donc m'a aidé aussi à m'immerger dans ce terrain très, très historique, etc., et puis à mettre des mots sur ce qui s'est passé à cette époque et sur ce qui pouvait aujourd'hui encore se passer en France, puisqu'il y a toujours des syndicats étudiants aussi qui défendent ça, tout comme ça a pu être le cas, encore une fois, en Angleterre, parce que je comparais la France et l'Angleterre, en fait. Hein. J'ai fait une thèse, c'était la comparaison internationale. Et donc j'ai découvert qu'en Angleterre, à cette occasion, il y avait aussi... le salaire étudiant avait été défendu par les syndicats étudiants.
Oui. Donc du coup, tu as étudié les politiques de financement des étudiants en France et en Angleterre,
ouais.
De 45 à aujourd'hui, quoi.
Oui, en gros, ouais.
Ouais. T'as repéré et comparé, du coup, trois types de propositions ou de politiques de financement. Alors, je crois qu'il y a le student finance. Je suis hyper douée en le Word. Et le salaire étudiant.
Oui.
Qu'est-ce que c'est, ces trois propositions? Est-ce que tu peux les décrire, en gros?
Oui. Non, elles sont évoquées dans le livre, peut-être de façon... d'une autre manière, parce que, voilà, déjà, voilà, c'est quand même un peu plus... Au fond, le student finance, c'est quelque chose de très massif aujourd'hui, qui a pris des proportions énormes en Angleterre. C'est une hausse sans précédent des frais d'inscription et puis des prêts étudiants sur plusieurs décennies, jusqu'à un point tel qu'aujourd'hui, en Angleterre, les étudiants anglais et puis les étudiants aussi de l'Union européenne sont obligés de payer 10 000 euros une année de licence, en gros, pour le dire vite, et de s'endetter à hauteur de ces 10 000 euros pour rembourser ces frais d'inscription qu'ils ne sont pas en mesure de payer pour la plupart sur le coût. Et par ailleurs, vous avez aussi derrière ça d'autres catégories d'étudiants, d'étudiantes qui payent beaucoup plus. En fait, notamment les étudiants étrangers non ressortissants de l'Union européenne peuvent payer beaucoup plus. Et voilà, c'est ce type de projet qui existe déjà au Royaume-Uni et qui monte de plus en plus en France. Concernant les deux autres, c'est peut-être ça le... Je sais pas si je les évoque...
J'ai juste une petite précision. C'est pour toutes sortes d'études supérieures.
Ah oui, 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 il n'y a pas de... C'est quand même assez contrôlé par l'État, tout ça. Ils n'en sont pas à faire une discrimination entre les filières d'études, etc. Okay. Ça peut être discuté, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas, notamment parce que il y a quand même l'État britannique qui contrôle, paradoxalement peut-être, cette hausse continue depuis des décennies des frais d'inscription et puis des prêts étudiants.
Tu avais une autre...
Non.
Et du coup, donc là, tu as parlé de...
C'est le student finance. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle en Angleterre. Mais bon, voilà, c'est les prêts étudiants, les frais d'inscription, hein, pour le dire plus simplement. Et les deux autres systèmes, bah en fait, il y a le World, c'est le système précédent en Angleterre. Donc ça, je l'avais pas mal étudié. Ce qui s'est développé après-guerre, mais qui a complètement disparu aujourd'hui, qui s'est fait complètement remplacer, hein, en 98, à la suite de l'arrivée de Tony Blair, qui avait commencé à être mis en cause par Thatcher. Et donc voilà, c'était un système de gratuité. Ça existait en Angleterre, hein, dans les pays anglo-saxons. Peut-être contrairement à ce qu'on peut penser en France, la gratuité des études, de l'éducation, ça a une histoire, ça a existé, on s'est battu pour ça dans les décennies d'après-guerre, et on a réussi à créer un système qui permettait aux étudiantes qui étaient inscrits à temps plein, pas à temps partiel, parce que bon, là, au Royaume-Uni, il y en a beaucoup qui sont inscrits aussi à temps partiel, mais en tout cas, les étudiantes et les étudiants qui étaient inscrits à temps plein ne payaient pas leurs frais d'inscription. Et en plus, recevaient une prestation pour leurs frais de vie courante qui était assez importante, notamment pour les étudiants qui étaient issus des milieux les plus défavorisés. Quoi. C'était l'équivalent de deux bourses françaises à un moment, pour vous dire le montant. Mais c'était aussi, même l'étudiant issu des milieux les plus favorisés touchait aussi une prestation de ce type. Et les syndicats étudiants, pendant longtemps, se sont battus pour... notamment pour enlever cette variation selon le milieu d'origine. Et à un moment, de 70 à 74, ils se sont même battus pour un salaire étudiant. On pourra y revenir ensuite. En tout cas, au Royaume-Uni, ça s'est passé comme ça. Ce système, il n'a pas d'existence. Le World n'a pas vraiment de correspondant. Enfin, en France, voilà, il n'y a pas de système qui lui corresponde en France. En France, il y a plutôt une tradition, voilà, depuis l'après-guerre, de revendiquer un salaire étudiant et de construire les droits étudiants autour de ça. Cette tradition, elle est massivement contenue. On a aujourd'hui, c'est quand même beaucoup des bourses pour les étudiants les plus défavorisés, puis des frais d'inscription assez faibles. Mais ce qui a notamment empêché, voilà ce qui est évoqué dans le livre, ce qui a notamment empêché que les prêts, les frais d'inscription se développent autant qu'au Royaume-Uni, à travers l'histoire, c'est quand même l'existence d'une très très forte... d'un imaginaire autour du salaire étudiant, et puis aussi de droits sociaux qui lui correspondent, notamment pendant longtemps c'était la sécurité sociale étudiante. C'est après-guerre qu'elle a été obtenue, que les étudiants et les étudiantes se sont battus pour être intégrés au régime général de sécurité sociale, au nom du fait qu'ils revendiquaient les mêmes droits que les autres travailleurs, les autres travailleuses. Et à terme, ils revendiquaient un salaire étudiant. On pourra revenir peut-être dans le détail ici. Si c'est ça qui vous intéresse.
Ben ouais, qu'est-ce que ça veut dire de revendiquer un salaire étudiant finalement en termes de statut de l'étudiant, comment on le voit quand on considère, quand on veut que... Qu'est-ce que ça implique quoi de dire qu'on veut un salaire étudiant?
Ben ça dépend de la, ça dépend du contexte historique. Ça peut être aujourd'hui, on pourra peut-être en reparler, mais après-guerre... Ça s'est amorcé parce que voilà, on avait des militants étudiants qui faisaient partie notamment d'organisations de jeunesse, d'organisations étudiantes et notamment de l'UNEF, le syndicat étudiant peut-être le français, enfin le plus connu, qui sont arrivés à la libération en fait en 1945, en 1946, avec des orientations politiques assez claires qui voulaient imposer dans l'organisation et puis en dehors. Ces revendications, c'était notamment de... ils étaient... on avait là, il y avait une bonne partie, notamment dans le sud-est de la France, qui, en fait, avait participé plus ou moins directement à la résistance, à l'occupant nazi, et avait été particulièrement... catastrophée par le fait que d'autres que des assemblées générales locales de l'UNEF avaient collaboré avec cet occupant. Et eux, leur diagnostic, c'était il faut en finir avec le monde de l'entre-deux-guerres. C'est ce monde de l'entre-deux-guerres, cette UNEF de l'entre-deux-guerres qui aussi a contribué à l'arrivée de l'occupant nazi et puis à tout ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est contre ça qu'on a lutté pendant la guerre, parfois très activement. Hein. Il y a vous avez des syndicalistes étudiants qui sortent du maquis hein, à cette époque, notamment dans le sud-est. Et donc, ils sont déterminés à imposer un tournant syndical à l'UNEF et à aussi prendre position dans l'espace public pour faire part de ce tournant syndical, de ce que ça implique d'un point de vue politique, idéologique, tout ce qu'on veut. Ça les conduit notamment à rédiger la charte de Grenoble, la charte du syndicalisme étudiant, où l'étudiante est présenté en 1946 comme un jeune travailleur intellectuel. C'est le choix qu'ils font. Encore une fois, c'était absolument pas une fin en soi, il y avait une stratégie politique, en fait. Une stratégie politique qui devait mener notamment donc à la sécurité sociale étudiante que j'ai évoquée, qui a été obtenue en 1948, avec succès. C'était vraiment un travail de ces militants, ces militantes, et puis qui a mené en 1951 à ce que des parlementaires se ressaisissent de cette question et qu'on soit à deux doigts vraiment de voir une rémunération étudiante, enfin un salaire étudiant, mis en place en France. Après, qu'est-ce que ça voulait dire peut-être plus... Ta question d'origine, c'était qu'est-ce que ça voulait dire ? Alors peut-être, est-ce que j'ai bien répondu complètement ? Est-ce que tu as...
Bah, peut-être qu'est-ce que ça veut dire, du coup, dans cette charte de Grenoble, de qualifier l'étudiant de jeune travailleur intellectuel ?
Bah, c'est le contexte de la... Alors, il y a une proximité avec les syndicats de salariés, voilà, d'où le terme travailleur. Il y a une proximité aussi avec les organisations de jeunesse, qui est quand même assez importante et assez influente à l'époque. Et donc, il veut... Voilà, là c'est un peu plus stratégique encore. C'est quand même on veut se montrer qu'on est solidaire de ces organisations de jeunesse, notamment catholiques, communistes, hein, qui sont extrêmement influentes, qui elles aussi pour beaucoup sortent du maquis. Ils sont peut-être plus proches aussi de la jeunesse ouvrière chrétienne et communiste, encore une fois. Et intellectuel, c'est peut-être assez stratégique. C'est pour notamment montrer. Il y a une confédération des travailleurs intellectuels à l'époque qui existe, qui est assez influente aussi. Voilà, il s'agit de montrer aussi cette solidarité avec ces travailleurs intellectuels, beaucoup d'artistes, etc. Mais c'est peut-être ce terme qui a le plus fait parler ensuite, là, le côté intellectuel. Ça peut faire un télo, machin et tout ça. Mais quand j'ai eu la chance de m'entretenir avec un syndicaliste qui a rédigé cette charte de Grenoble, à aucun moment, si vous voulez, ça dépasse des considérations stratégiques de ce type. C'est beaucoup plus le terme de travailleurs, voire de jeunes, qui leur paraissait absolument fondamental à l'époque. Dans la charte de Grenoble, les étudiants, les étudiantes proclament qu'ils veulent participer à l'effort de reconstruction nationale, qu'ils veulent travailler pour la société, etc. Donc, dans le contexte de l'époque, c'est lié à ça, à la reconstruction et à la volonté de montrer qu'on est prêt à contribuer, qu'on l'a fait dans le passé, parfois en tant qu'ancien résistant, en tant qu'ancienne résistante. Donc, c'est ce qui explique aussi l'influence de ces militants de l'époque. Ils ont un aura... politique extrêmement important dans le contexte. Et voilà, c'est comme ça que c'est de là que ça part. Enfin, c'est de ce sentiment que ça part à l'époque. Et après, ça va prendre peut-être d'autres proportions avec les parlementaires. Je ne sais pas si je l'évoque.
Ah, vas-y,
si,
vas-y.
Si, j'y vais. Donc, dans leur lutte, ils vont rencontrer des parlementaires, notamment communistes, chrétiens-démocrates, qui sont en fait des chrétiens-démocrates très, très radicaux à l'époque. Puis, voire socialistes. Mais bon, les socialistes sont un peu déjà dans la trahison, on va dire, à l'époque, pour le dire vite. Et du coup, ils vont réussir à provoquer un échange, un vrai dialogue, notamment lors de leur congrès. Ils invitent des parlementaires. Il y a des échanges, notamment assez, assez élaborés, autour du salaire étudiant, autour de la nécessité d'un employeur ou lors d'un contrat de travail, etc. Il y a des débats qui vont avoir lieu à cette occasion. Et c'est à cette occasion, voilà, dans ces débats, qu'on va dire non, mais on va se faire salarier sans qu'on ait... un employeur au-dessus de notre tête, sans qu'on soit obligé de signer un contrat, sans éventuellement aussi qu'on soit obligé de rembourser le salaire qu'on va percevoir après les études. Vous avez des débats extrêmement intéressants qui ont lieu dans les congrès étudiants, notamment avec des parlementaires. Et ces parlementaires vont se ressaisir de cette question au sein de la commission de l'éducation nationale, de l'Assemblée nationale, et préparer un projet de rémunération étudiante qui sera extrêmement influencé par le projet de l'UNEF, mais qui marque quand même pas mal de sauts qualitatifs. Il y a quand même un vrai apport, mine de rien, des parlementaires au projet initial de l'UNEF, notamment dans l'argumentaire. Dans l'argumentaire, ces parlementaires vont quand même, c'était déjà dit à l'occasion de la sécurité sociale étudiante, mais bon, vont prendre la parole dans l'arène parlementaire pour proclamer que les étudiants, les étudiantes sont des travailleurs comme les autres, et que c'est à ce titre qu'on doit leur attribuer un salaire, que ces étudiants et ces étudiantes peuvent être comparés à d'autres travailleurs, à d'autres catégories de travailleurs, et notamment à l'ouvrier. Vous avez une intervention de ce type qui se fait soit dans le rapport, je ne sais plus, soit dans le débat en séance plénière, pour dire, mais au fond, l'étudiant, l'étudiante, ils produisent des choses extrêmement utiles, nécessaires, qui sont aussi utiles qu'un barrage que construit l'ouvrier, par exemple. Et donc, à ce titre, il n'y a pas de raison de ne pas leur verser de salaire, parce que la valeur de leur activité, elle est immédiate, en fait. Contrairement, notamment, à ce que peuvent dire les socialistes à l'époque, elle n'est pas future, la valeur de leur activité. C'est pas dans le futur qu'on va voir la valeur de l'activité des études. C'est immédiatement. Il y a une valeur immédiate qui est produite, et cette valeur, voilà, c'est la production de choses extrêmement utiles, extrêmement nécessaires. Mais c'est aussi, c'est là aussi où c'est assez fort ce que font les parlementaires, ils en viennent à dire, ben voilà, c'est aussi une valeur, au sens économique du terme, c'est aussi une valeur qui est une valeur différente de la valeur qu'on associe habituellement au profit, en fait. Et donc, vous voyez derrière l'ambition des parlementaires, et puis derrière aussi l'ambition des syndicalistes étudiants, c'est quand même de remettre en question la conception capitaliste du monde, de l'économie, et de contribuer à la construction d'une autre économie non capitaliste, qui ne prenne pas pour référence absolue la création de profits. Oui.
Moi, je peux te poser une question, du coup, pour approfondir ce côté politique de la revendication du salaire étudiant. Comme tu as dit, c'est reconnaître le statut de l'étudiant comme un travailleur, donc comme un producteur de valeur. Et du coup, c'est le statut de cette production qui change. On produit, les étudiants sont des travailleurs qui produisent quoi ? De la connaissance. La connaissance qui va être utile pour la société. Et ça s'oppose à l'autre vision, la vision capitaliste, qui veut former les futurs cadres sur le marché du travail. C'est ça, en fait, la lutte, elle a lieu entre ces deux visions-là.
Il y a une opposition sur la conception des études, et puis la conception de l'étudiant, même de l'étudiante, voilà, quelle représentation on a de ces personnes. D'un côté, on voit, avec les prêts et les frais d'inscription notamment, hein, on voit qu'ils pouvaient être défendus déjà après-guerre. Hein. C'est des combats acharnés, hein, à l'époque aussi. Hein. C'est pas ils n'ont pas un boulevard non plus devant eux. J'ai dit, il y a des socialistes qui défendent les prêts, qui défendent la conception de l'étudiant comme futur travailleur, futur producteur. Et aujourd'hui, ça a mené à une conception de l'étudiant presque comme consommateur, consommatrice. Hein. On pourra en reparler, mais c'est ça aussi qui a derrière les prêts, les frais d'inscription aujourd'hui. Et de l'autre côté, on en a qui se battent pour défendre la qualité présente des études, la qualité, la valeur présente des études, la valeur immédiate, et notamment la qualité donc, présente de l'étudiant avec sa qualité de travailleur, de travailleuse. Il y a vraiment un conflit déjà à l'époque entre ces acteurs qui va être remporté au niveau de la bataille des idées par les militants, les militantes du salaire étudiant, mais qui ne va pas aboutir au niveau de la bataille des, on va dire législative. Quoi. Mais en tout cas, dans la bataille des idées, il y a quand même ces idées qui se sont imposées. Je crois qu'il y a il y a le premier article qui a été adopté de ce projet de rémunération. Après, bon, il y a un coup de Trafalgar d'obstruction gouvernementale qui fait qu'on empêche. Mais le premier article fait notamment référence à cette conception, et il a été adopté en séance plénière.
Et ça, du coup, ça veut dire aussi que ça rappelle en fait qu'il faut dissocier le travail de l'emploi. Effectivement, l'étudiant travaille et n'a pas d'emploi, mais travaille.
Ouais. Ouais, une autre lecture du travail qui s'amorce aussi à l'époque, qui n'est pas réductible donc À l'époque, on ne parle pas d'emploi, hein. Enfin, on parle du travail salarié avec un employeur sous contrat de travail, du travail ouvrier. Enfin, c'est ces références qui sont là, mais on sent bien que derrière, on est en train de dire il y a un travail légitime, un travail tout aussi légitime que les autres, qui pourrait être rémunéré, et il le serait dans un cadre non subordonné à l'employeur. C'est ça qui ressort particulièrement à l'époque, et les étudiants et les étudiantes se battent à l'époque contre ça, notamment dans les congrès, par rapport aux propositions, encore une fois, socialistes qui peuvent être faites de ce type.
Mais aujourd'hui, les revendications, le salaire étudiant, on entend très peu parler, la gratuité des études, c'est des revendications qui me semblent peu... plus beaucoup être là, finalement. Les gens revendiquent là, sont contre Parcoursup, mais ne revendiquent pas forcément un salaire étudiant. Et je reviens, en fait, à peut-être dans ton sujet de thèse, toujours. Donc, le titre exact, c'est donc les politiques de financement des étudiants en France et en Angleterre de 1945 à 2011. Ouais. Donc, le student finance, l'Howard et le salaire étudiant. Et leur hégémonie. Qu'est-ce que c'est l'hégémonie, déjà, tu l'utilises au sens de Gramsci. Et qu'est-ce que ça nous dit, en fait, de peut-être justement ces revendications-là. Il semble que celles qui sont plutôt du côté des prêts, du coût des études, etc., elles ont gagné un peu, ou en tout cas, elles sont dominantes dans le discours aujourd'hui.
Oui, on peut dire qu'elles sont hégémoniques dans les pays anglo-saxons et peut-être dominantes aujourd'hui en France. Et toute la question aujourd'hui du salaire étudiant, c'est comment on remet en cause cette hégémonie et comment on remet en cause cette domination de plus en plus forte en France de cette conception des études et puis de ce type de mesures. Et pour faire ça, il y a le détour, là, encore une fois, le détour par l'histoire est intéressant. Tu disais qu'on n'entendait plus beaucoup parler du salaire étudiant aujourd'hui. Ben en France, effectivement, je confirme, et le diagnostic que je fais, c'est que c'est parce qu'on n'en entend plus parler que la domination des prêts, des frais d'inscription, de la conception des études qu'il y a derrière, se fait de plus en plus forte, en fait. C'est mon diagnostic. Je le fais notamment à la lumière de ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où il y a eu un abandon total de la revendication au milieu des années 70 par le syndicalisme étudiant. Et c'est à partir de ce moment-là que la gratuité a commencé à être massivement remise en cause et que le système de frais d'inscription et de prêts s'est développé en commençant par des baisses des bourses de Thatcher. Et puis Thatcher a réussi à faire passer quelque chose auquel je pense qu'on va être confronté dans les années qui viennent, c'est la hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne. Donc on va avoir cette bataille politique qui s'est déroulée dans les années 80. Il y a de grandes chances qu'elle arrive bientôt en France et que si elle n'est pas menée, je pense, du point de vue du salaire étudiant, du travail étudiant, on risque d'en arriver au même stade que les Anglais et de passer d'une domination très très forte à une situation hégémonique encore plus difficile à bousculer, parce que je vous confirme que au Royaume-Uni, il y a les frais d'inscription, les prêts, ça c'est quand même des dynamiques lourdes change radicalement la conception de l'étudiant, le font vraiment passer pour un consommateur et une consommatrice, et ça implique des changements beaucoup plus radicaux, beaucoup plus lourds de ce point de vue-là. Donc c'est cette hégémonie, ce n'est pas qu'une situation, c'est aussi une bataille, c'est aussi un combat, et ce combat, il a eu lieu d'une certaine manière au Royaume-Uni, et ça amorce un combat du même type, en fait, en France, et à mon avis, on a tout intérêt à regarder attentivement ce qui s'est passé au Royaume-Uni et à voir à quel point l'abandon de la revendication du salaire étudiant a laissé la porte ouverte en fait à ce type de mesures telles que les frais d'inscription et les prêts étudiants.
Ouais, c'est parce que tout à l'heure tu as dit que la bataille avait été gagnée sur le plan des idées au niveau de la revendication du salaire étudiant en France. Sauf que concrètement, il n'y a pas de salaire étudiant.
Ah, tout à fait. Non,
et même s'il y a des droits sociaux, il y a encore un statut étudiant qui n'est pas le même que celui au Royaume-Uni en France. Mais bon, il y a du boulot, quoi. Il y a un combat à mener. Surtout que là, pour parler de la situation présente, il y a Macron qui a commencé à parler de hausse des frais d'inscription, de la possibilité de prêts étudiants, etc.
Ah mais non, je ne conteste pas qu'il y ait du boulot, hein, en France aussi. Ce que je disais tout à l'heure, pour pas qu'il m'a entendu, pour moi, c'est en 1951, on voit qu'il gagne là-bas, enfin, il commence à gagner la bataille des idées, et, enfin, les personnes, jamais les socialistes n'auraient pu faire passer ces prêts étudiants comme ils le voulaient à l'époque, et ils ont fini par s'écraser en fait en séance plénière et arrêter aussi de défendre ce type de proposition parce que ils n'arrivaient pas à faire passer cette idée dans un contexte encore une fois différent. Enfin, il faut imaginer le contexte, les militants, les militantes étudiantes. Enfin, il y en a plusieurs, c'est des anciens résistants. Là, à ce moment-là, il y a une bataille des idées qui commence à se gagner. Et bon, voilà, on a des décennies qui se sont passées entre temps. Et aujourd'hui, oui, la bataille des idées, elle est en train d'être gagnée plutôt par les promoteurs des frais d'inscription et des prêts étudiants. Hein. Ça, je remets pas en cause. Mais donc, voilà, il y a du boulot. On peut en parler ensuite plus précisément si vous voulez.
Ben ouais. C'est quoi, du coup, comment tu penses qu'on peut regagner remettre ce sujet sur la table? Enfin, toi, tu le fais concrètement en allant intervenir,
oui.
Voilà, en écrivant un livre, comment on remet ce sujet au centre de la table et comment on met en place en fait le salaire étudiant
Comment les syndicats étudiants s'en emparent pour concrètement essayer d'amener à un changement.
Mais encore une fois, peut-être la clé, elle se trouve peut-être aussi en dehors de la France, et c'est toujours intéressant d'aller voir aussi un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Comme pour remettre le sujet déjà au centre de la table, avant d'envisager vraiment son application immédiate, je pense qu'il y a tout à gagner à s'intéresser encore une fois aux mobilisations étudiantes qui marchent en fait, notamment à l'étranger. Ce n'est pas le cas en France, pour l'instant malheureusement, même s'il y a des choses qui évoluent, à l'occasion du livre, on pourra en reparler, mais il y a des échanges qui se nouent, et puis on a quand même des militants, des syndicalistes étudiants en France qui ont envie de se ressaisir de cette question. En tout cas, ils en manifestent l'envie. Mais à l'étranger, je pense que ce qui est particulièrement rafraîchissant, notamment dans le contexte actuel, c'est de regarder ce qui se passe au Québec. Au Québec, bon, vous êtes sur le modèle anglo-saxon, notamment suite à une lutte étudiante massive qui a eu lieu en 2012 et qui a été dans l'ensemble perdue. Cette lutte, elle a donné lieu à une hausse des frais d'inscription. C'est l'année, c'est plutôt 8 000, ça peut être entre 6 000 et 8 000 euros l'année d'études. Et donc il y a eu une défaite là aussi en 2012 du mouvement étudiant québécois, notamment syndical. Alors ça aurait pu en abattre plus d'un, en déprimer plus d'un, mais il n'empêche qu'en 2016, il y a des comités étudiants qui ont commencé à se remonter et à faire le diagnostic qu'il y avait eu une erreur stratégique et qu'ils avaient perdu parce qu'ils avaient fait une erreur stratégique. Cette erreur stratégique, elle a notamment été portée par certains syndicats étudiants, c'était de lutter contre ces réformes au nom de la lutte contre la marchandisation de l'enseignement supérieur, pour défendre le savoir, le savoir autonome, etc., pour préserver en fait un enseignement supérieur du monde économique, comme s'il avait pu en être préservé dans le passé. Mais donc voilà, c'était ça, il fallait se battre pour préserver cette autonomie qui avait réussi à être conservée, comme si l'enseignement supérieur avait réussi à se préserver de tout ça. Pour eux, l'erreur stratégique, elle a été là, et l'erreur stratégique, elle a été de ne pas reprendre, alors pourtant ça existait au Québec, de ne pas s'appuyer sur le point de vue du travail étudiant, le point de vue du salaire étudiant. Et en 2016, ils ont fait ce diagnostic, ces comités. Ces comités, en fait, je dis « ils », mais c'est surtout des femmes, en fait. Hein. C'est surtout des étudiantes qui ont fondé les comités unitaires sur le travail étudiant. Et depuis 2016, ces étudiantes, et puis dans une moindre mesure, ces étudiants, ont décidé d'aborder, de reprendre le point de vue du travail étudiant et la revendication du salaire étudiant, mais de prendre pour angle d'attaque la question des stages. La question des stages... Parce que il y a un fait qui est extrêmement significatif là-bas et qu'elles ont pointé dès 2016, c'est que les stages rémunérés, et au fond le salaire étudiant, hein, ça, on peut en reparler en France, le salaire étudiant existe déjà au Québec. Et les stages étudiants rémunérés, ils se déroulent en fait massivement dans les filières d'études où les hommes sont majoritaires. Et elles ont pointé le fait que les stages non rémunérés, eh bien, c'était dans des filières comme l'éducation, le travail social, les soins infirmiers, dans des la santé, dans des la santé, bon, pas le médical, mais la santé, pas les médecins, mais bon, la santé, les personnels de santé autres que les médecins, et dans des filières où les femmes sont majoritaires. Et elles ont pris pour angle d'attaque de dire, ben voilà, on voit bien que les étudiants et les étudiantes, aujourd'hui, on les met de plus en plus au travail, les stages se développent, ils sont de plus en plus longs, de plus en plus contraignants. Et ce qu'on voit, c'est que ils ne sont pas rémunérés dans les filières où sont massivement présentes les femmes, et aussi, peut-être aussi les milieux populaires, hein, elles abordent aussi ces questions. Et donc, on a des personnes qui se font exploiter d'un point de vue capitaliste. Mais au-delà de ça, on a des personnes qui, aujourd'hui, subissent de plein fouet, en fait, le patriarcat. Le patriarcat, la domination dans l'espace domestique des femmes, en fait, s'étend de plus en plus aux études. Et donc, on va de plus en plus voir un développement du travail, d'un travail gratuit, en fait. Encore une fois, dans les études, un travail gratuit de plus en plus pesant. Hein. On a... des témoignages d'étudiantes absolument accablants, les témoignages, sur ce qui se passe actuellement, sur leur quotidien, à quel point c'est lourd de devoir de gérer son stage, sa condition de parent aussi, parce que bon, c'est des étudiantes qui des fois sont assez quand même, sont un peu plus âgées qu'en France et qui voilà, ont souvent une vie de famille, et donc voilà, c'est extrêmement difficile de gérer ça, par ailleurs aussi de prendre des emplois étudiants dans le secteur commercial actuel pour financer ces études. Et donc elles ont pris cet angle d'attaque pour dire, voilà, on va renouer avec le point de vue du travail étudiant, le point de vue du salaire étudiant, en réclamant la rémunération des stages, et au nom de la lutte contre le capitalisme, bien sûr aussi là, mais aussi de la lutte contre le patriarcat. Et on va massivement mobiliser là-dessus. Voilà notre stratégie. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche plutôt pas mal, en fait. Elles ont mis en grève 15 000 stagiaires l'année dernière, pendant une journée. 15 000. En lien avec d'autres organisations. Elles ont aussi elles ont des liens avec l'international. Elles ont des modes d'action sur lesquels on pourra revenir, hein, mais quand même, la grève fait partie de leur répertoire d'action. Et par ailleurs, elle prévoit, là, c'est l'actualité chaude, une grève d'une semaine cette année, du même type, encore une fois, pour obtenir la rémunération des stages. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que on sent que cette entrée par les stages leur permet de toucher des publics. Toucher des publics qui sont soit particulièrement touchés par la question des stages non rémunérés, soit aussi particulièrement touchés des systèmes d'oppression plus globaux, que parfois ils nomment le capitalisme ou le patriarcat. Donc on voit que ça débloque des choses politiquement, que ça mobilise aussi autour de systèmes d'oppression globaux qui vont bien au-delà de l'enseignement supérieur. Il s'agit aussi de lutter avec le salaire étudiant, le travail étudiant, les stages. Il s'agit aussi de lutter contre ces systèmes, de préparer leur remise en cause radicale, de discuter de ces systèmes. Il y a des échanges extrêmement intéressants. Elles ont des revues, Elles font paraître des revues, elles ont un site internet de débat, de contributions. Et donc il y a des débats extrêmement intéressants pour articuler cette revendication, ce point de vue du travail étudiant, à des mesures très concrètes, la rémunération des stages, qu'elles se battent vraiment pour obtenir à très court terme, hein. Et aussi pour préparer le salaire étudiant à une remise en cause un peu plus radicale qui dépasse l'enseignement supérieur, et donc notamment contre le patriarcat, ça ressort énormément, et puis contre aussi le capitalisme, et éventuellement d'autres formes de domination. Hein. Ce week-end, je lisais un texte qui avait un point de vue, c'était un point de vue LGBT sur le travail étudiant, le salaire étudiant, et donc qui disait, ben voilà, les homosexuels notamment ont beaucoup plus, ont des intérêts spécifiques, ils ont intérêt aussi à se montrer solidaires avec les autres sur cette revendication-là, etc. C'est extrêmement intéressant les débats qu'ils peuvent avoir, et voilà, c'est L'idée, c'est de faire aussi, d'aller au-delà de la revendication en tant que telle, et de son application immédiate, pour le coup.
Du coup, moi, j'ai une question, parce que derrière la revendication du salaire étudiant, du coup, c'est une revendication plus politique du statut de l'étudiant comme travailleur. Mais du coup, ça pose la question, qui verse ce salaire socialement? Qui est... Parce qu'on est encore dans une vision dominante qui est celle du capitalisme, où quand on est salarié, on est subordonné. On est dans un lien de subordination. Là, la revendication de salaire, du salaire étudiant remet radicalement en cause ça. Mais ça pose la question, socialement, comment ça fonctionne? Qui verse le salaire étudiant? Comment c'est organisé? Parce que si c'est... Pour prendre le cas des stagiaires, si c'est leur lieu de stage... Il y a un risque de subordination qui peut s'installer.
Alors, cette question, j'ai rencontré en fait une des militantes du CUT ce week-end là, à Bruxelles. Elle était invitée par le syndicat étudiant belge qui organisait son week-end de formation. Là à Bruxelles, en invitant aussi ce qui est les Suisses et puis aussi les syndicalistes étudiants français qui ont envie de défendre la revendication du salaire étudiant. Et donc la question des moyens, en fait, on sent qu'il y a, enfin la question de concrètement le dispositif, comment ça marche, on sent que c'est pas leur entrée prioritaire là-bas. C'est pas leur entrée prioritaire là-bas. Je ne dis pas qu'elles ont forcément raison, mais je trouve que la réponse qu'elles formulaient ce week-end était quand même assez intéressante. Elle disait, enfin, à partir du moment où vous abordez les questions de financement, nous, on a marqué qu'on tombe vite en fait dans la question des chiffres, les querelles de chiffres, et que les aspects les plus politiques en fait de la revendication sont évacués. Alors nous, notre diagnostic, c'est que d'abord, on cherche à faire passer des idées politiques d'abord. Et donc leur stratégie, d'un point de vue stratégique, elle disait, voilà, nous, on n'a pas à ce stade. Tout en disant, mais il y a des angles morts dans ce qu'on fait, il y a des choses, il y a des points aveugles, hein, tout en laissant la discussion ouverte. Mais de dire, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on tombe vite quand même dans des querelles de chiffres en abordant ces questions très, très économiques d'emblée, et on évacue les questions politiques. Donc, le peu de texte que j'ai lu, elles disent en gros, l'impôt, ça existe, voilà, il y a des fonds qui sont socialisés, qui pourraient être mobilisés, etc. Ça pourrait être les mêmes fonds que leurs camarades stagiaires masculins qui sont, voient leur stage rémunéré, etc. Voilà, il y a tous ces aspects-là qui sont évoqués. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles, aussi, c'est que, a priori, elles ne connaissent pas, par exemple, le salaire à vie. Enfin, les propositions extrêmement précises que peut faire Bernard Friot, elles ne connaissent pas aussi. Et du coup, en fait, c'est peut-être un point de vue très ouest européen d'insister sur les moyens, les dispositifs concrets qui pourraient être mis en place, etc. Le côté, la dimension la plus programmatique, en fait, hein, la plus du salaire étudiant, c'est peut-être très ouest européen. Alors que là-bas, c'est plutôt la dimension, on va changer d'abord les mentalités, quoi. On va agiter un peu l'espace public, et notamment l'espace étudiant. Avec ça, on va repolitiser cet espace et on va mobiliser d'abord à la base, avant aussi de se tourner vers l'État, vers les dirigeants, pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait négocier, voilà, comment on pourrait mettre en place, etc. Visiblement, ça n'est pas leur priorité, et pour des raisons stratégiques qui, à mon avis, appellent réflexion aussi ici, en France et en Europe.
C'est intéressant parce que c'est affirmer des principes avant comment on va le faire, en fait, avant des modalités de mise en place. Et nous, on est souvent, j'ai l'impression, à vouloir très bien expliquer les modalités parce que ça, autrement, on est accusé d'être pas réaliste, pas. C'est très bien tes revendications, mais c'est pas possible. Et du coup, c'est aussi pour ça, je pense, que beaucoup dans le salaire à vie vont dans des détails très précis, mais si, pour bien montrer que c'est bien possible et essayer de convaincre quelqu'un qui parlerait avec... qui aurait d'autres chiffres à opposer, quoi. Mais c'est vrai que ça aide pas forcément. Enfin, ça mobilise certainement plus quand on parle de stage, d'une situation très concrète, que quand on...
Non, mais après, moi, je posais la question parce que... ce que tu appelles le côté économique ou la querelle de chiffres, c'est aussi une question politique,
ouais.
D'organisation, de comment fonctionnent démocratiquement les études, il y a ça derrière.
Ah oui, après, donc, moi, j'ai tendance à partager ton point de vue. Moi, je suis très ouest-européen. Hein, mais on pourrait y revenir. Mais je pourrais fournir, moi, la réponse que je peux faire à ça. Ensuite, mais je trouve que c'est intéressant le point de vue québécois, parce que on sent bien que peut-être qu'aujourd'hui, on vit dans des sociétés où l'expertise économique, elle a tendance à... La façon dont on l'a construit, elle dépolitise, en fait, pas mal le... Ouais. La question, et elle ne sert pas forcément peut-être notre cause. Quoi. Donc, on a peut-être aussi une autre expertise économique à inventer. Parce que moi, là, à ce stade de ma réflexion aux Québécoises, la réponse que je leur ferai, c'est... Moi, j'ai l'impression aussi que c'est... quand même, l'expertise économique, c'est important. C'est important parce que moi, ce que je pressens, c'est que les étudiants et les étudiantes, justement, ils sont niés comme des personnes légitimes dans le domaine économique, notamment. Et ils le seront aussi à un moment d'autant plus qu'ils ne sont pas capables de proposer une autre expertise économique qui montre, en fait, qu'ils connaissent très, très bien l'économie, en fait, les étudiants et les étudiantes. Donc, voilà. Et notamment, elles ont largement les moyens de dire « Non, mais attendez, enfin, les stages, on a 900 heures de stage. En une année, vous êtes en train de nous dire qu'on ne connaît pas l'économie. Enfin, l'économie, elles la connaissent. Elles sont tout à fait capables d'avoir un discours sur le fonctionnement de leurs administrations, leurs associations, leurs entreprises, là où elles font les stages. Et elles le font, pareil. Et c'est pas... Voilà, on peut parler aussi d'économie, peut-être de façon moins chiffrée. C'est peut-être ça aussi qui amorcerait une autre expertise économique qui serait peut-être plus efficace politiquement. Parce que c'est vrai que ça peut, j'entends, moi, ça, voilà. Il peut y avoir une expertise économique très, très, peut-être très dépolitisante, en fait. Tout
ça. Mais du coup, le salaire étudiant, toi, comment on le mettrait en place ici en France et comment on le financerait ?
Ben, je pense qu'il faut tenir compte de l'existant, encore une fois, notamment de l'existence en France de. Ben, voilà, d'un système de prestations sociales qui est fondamentalement lié à la construction du salariat et puis à la construction de barèmes de salaire, en quelque sorte, de barèmes politiques de salaire. Là, on a en France, les salaires, ils sont construits pendant des décennies. On s'est battu pour qu'ils soient politiques et pas qu'ils soient, en fait, qu'ils dépendent d'un rapport de force inégal entre l'employeur et puis le salarié, qui dépendent du monde de l'emploi, enfin, voilà... etc. Donc c'est aussi à partir de cet existant, à mon avis, que se dessinent les pistes d'une mise en place, on va dire à moyen terme, voire à long terme, d'un salaire étudiant. Aujourd'hui, vous avez, pour être plus précis, vous avez les comptes, c'est que chaque année, il y a déjà 25 milliards en fait, d'euros qui sont versés directement ou indirectement aux personnes en formation. Alors, derrière, vous avez les aides sociales étudiantes, hein, donc c'est 25 milliards, ça n'est pas rien, c'est les bourses, vous avez aussi les allocations logement, ça c'est les grosses prestations étudiantes. Vous avez aussi une aide indirecte particulièrement injuste, qui c'est les exonérations fiscales, hein, aux ménages les plus aisés qui déclarent des étudiants et des étudiantes dans leur foyer. C'est 1,5 milliard chaque année, voire 2 milliards qui partent en exonération fiscale des ménages aisés, etc. Donc ces fonds-là, ils pourraient être remobilisés. À mon avis, les fonds les plus intéressants, ce sont les fonds qui, eux, font beaucoup plus référence à des barèmes de salaire, au salaire tel qu'il fait référence dans le monde de l'emploi, c'est-à-dire que voilà, on verse un salaire qui a un lien avec le salaire dans le monde de l'emploi, mais on le verse à des personnes en formation qui n'ont absolument rien à voir qui n'ont pas de lien direct avec l'employeur, qui ne sont pas subordonnés, comme ça se peut se développer en France. Le fonds le plus important, c'est les 16 milliards de la formation continue. Hein. On a des personnes en formation qui voient leur salaire. Alors, c'est absolument pas un système modèle, hein. Y a plein de choses à dire sur le fonctionnement de ce système, mais 16 milliards, bon, ça fait réfléchir quand même. Ces 16 milliards d'euros sont donnés à des personnes pour qu'elles gardent leur salaire au moment où elles reprennent une formation, elles reprennent des études, et ça mérite à mon avis qu'on s'y arrête, d'autant que c'est aussi financé par une cotisation salariale. Enfin, c'est complètement ancré dans le système de protection sociale français, fondé sur la cotisation, etc. Donc il y a des aspects extrêmement intéressants. Ce qu'il faut savoir aussi aujourd'hui, c'est que des demandeurs d'emploi peuvent aussi voir leur garder les trois quarts de leur salaire, parce que l'indemnisation chômage, c'est les trois quarts du dernier salaire perçu, et être autorisé à suivre une formation. Ça, c'est 1,5, 2 milliards. Aujourd'hui, ça concerne des centaines de milliers de personnes. Hein, ce dispositif, c'est pas rien. Et donc, ça mérite encore une fois qu'on s'y intéresse, d'autant que c'est financé par cotisation, les cotisations de l'indemnisation chômage. Voilà, on a tous ces dispositifs aujourd'hui, mais on ne les voit pas. On ne voit pas aussi, c'est notamment dans l'enseignement supérieur, on ne voit pas qu'il y a des... Il y a des écoles d'État qui payent déjà en fait leurs étudiants, leurs étudiantes. Les écoles normales, polytechniques, il y a déjà un salaire étudiant en fait. Mais voilà, comme c'est l'explication de classe, c'est que c'est les enfants de la bourgeoisie. Hein. Et puis ce sont des hommes aussi, je pense, majoritairement. Il y a encore cette explication patriarcale, à mon avis, qui peut être abordée, voire des explications un peu plus complexes sur les enfants d'immigrés. La très faible présence, à mon avis, des enfants d'immigrés dans ces écoles, bon, on peut faire des hypothèses là-dessus aussi. Hein, Mais là, voilà, le salaire étudiant, il est accepté. Dans ces cas-là, la gratuité totale, elle n'est absolument pas remise en cause. Donc on peut s'intéresser aussi à cet existant-là pour le dénoncer, mais aussi préparer autre chose de plus universel pour tous les étudiants, les étudiants. Et voilà, on a 25... Mais tout ça, c'est des ordonnées. On a tendance à ne pas forcément le voir, ça ne fait pas partie du débat public. Alors que voilà, on salarie des personnes en formation, il y a des fonds qui existent, 25 milliards, ça n'est pas rien. Il y a des perspectives aussi pour faire monter, qui sont évoquées dans le livre, hein, pour faire monter en gamme, là, c'est 25 milliards, et qu'on arrive plutôt dans les 60, les 80, les 100 milliards, pour que ça... un système vraiment universel soit envisageable. Dans ce cas-là, il faut regarder du côté de la fraude sociale. Vous avez 20 milliards chaque année de fraude aux cotisations sociales. Vous avez aussi 20 à 30 milliards d'exonération de cotisations sociales sur les bas salaires. Là aussi, encore une fois, il y a des marges de manœuvre. Il y a évidemment des marges de manœuvre dans une stratégie de recul des revenus du capital aussi. Enfin bon, voilà, il y a des revenus capitalistes extrêmement importants qui augmentent et qui sont complètement illégitimes, dont il faudrait organiser la suppression. Donc il y a des choses de ce point de vue-là qui pourraient donner lieu être un peu synthétisées dans un système universel de rémunération des adultes en formation avec des rémunérations qui seraient calées sur des salaires... des barèmes de salaire conquis politiquement par ailleurs, voilà, tout est envisageable. C'est ce qu'ils envisageaient après-guerre, hein. Je ne l'ai pas évoqué, mais c'était envisagé comme ça aussi après-guerre en France. Et créer aussi une cotisation études formation pour vraiment remettre ce besoin de formation des adultes qu'on sent aujourd'hui encore. Après, voilà, moi j'ai fait des études longues, moi je ne vais pas... si on me dit, écoute, la formation des adultes... Ça n'est pas nécessaire. Il y a d'autres secteurs d'activité qu'il faudrait financer en priorité. On peut se passer de se former et d'être payé pendant ce temps-là. Bon, je peux l'entendre, hein. Mais je ne sens pas ça. Moi, je sens qu'il y a quand même une attente en la matière, qu'il y a des besoins objectifs aussi de formation énormes. 2 millions d'analphabètes aujourd'hui quand même en France. Hein. C'est des personnes de nationalité française qui sont passées par le système éducatif français. Hein. Donc il y a aussi des besoins de ce type. On peut envisager de lutter contre certaines inégalités avec un système universel quand même. Il y a des choses envisageables de ce point de vue-là qui sont évoquées dans le livre. Mais donc voilà, il y a quelque chose de possible de ce point de vue-là, et par le biais d'une cotisation études formation, et puis aussi par le biais la création d'un interlocuteur unique aussi qui pourrait populariser en fait ce nouveau droit qui serait étendu notamment auprès des couches populaires, hein. C'est ce qu'on sait en France, les couches populaires, les adultes ont beaucoup de mal à recourir au droit actuel à la formation continue, quoi. Donc populariser ce droit, faire que des publics qui n'y auraient pas pensé vraiment se saisissent de cette question, se mobilisent et se disent, après tout, pourquoi pas moi, etc. Et on aura besoin d'un interlocuteur unique qui finance les personnes, qui contrôlent aussi la, qui s'assurent que les formations financées sont aussi de qualité, qu'il n'y a pas d'escroquerie derrière, et puis aussi qui popularisent ce droit, qui informent beaucoup, qui communiquent autour de ce droit, parce qu'aujourd'hui, il est davantage hors des radars que d'autres droits sociaux qu'on peut avoir, l'assurance maladie, la retraite, etc.
Ouais, le système de formation professionnelle aussi aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et bon, on est loin en tout cas de la revendication d'une éducation permanente, quoi. Pour toutes et tous, n'importe quel âge de la vie, etc. Quelles autres pistes tu pourrais donner ou auxquelles tu as réfléchi qui donneraient une autre crédibilité aux revendications de gratuité et de salaire étudiant?
Les autres pistes, c'est des questions aussi sur des questions précises sur les systèmes d'oppression globaux qu'on veut dénoncer. Et pourquoi on veut dénoncer ces systèmes d'oppression globaux en priorité? Pour parler à quel public? Il y a des enjeux stratégiques derrière aussi. Mmh. Parler à quel public? Pour nouer quelles alliances? Il y a en Amérique du Nord, parce que le salaire étudiant, ça a démarré dans les années 70 en Amérique du Nord aussi. Enfin, il y a une tradition là-bas. En Amérique du Nord, les militants et les militantes se sont plutôt tournés vers les personnes sans salaire, les mères au foyer. C'est très lié à la campagne sur le salaire au travail ménager en Amérique du Nord. Enfin, historiquement, il y a des liens, il y en a toujours aujourd'hui. Et donc, la campagne féministe, ce courant du féminisme pour le salaire au travail ménager, on pourra parler après si vous voulez, mais se sont tournées vers les mères au foyer. Elles se sont tournées aussi vers les salariés, les femmes salariées et immigrées très mal rémunérées, pour dénoncer encore une fois la tendance à l'exploitation, à la surexploitation féminine, à la tendance au travail gratuit, à la faible rémunération, etc. Elles ont noué dans les années 70, on nouait des alliances avec les infirmières, par exemple, les enseignantes qui étaient particulièrement mal payées. Il y avait des alliances de ce type qui avaient été faites à l'époque aussi avec les travailleuses du sexe. Hein. Ça, voilà. Il y a des échanges qui ont été faits là-dessus. Parce que, voilà, en gros, on avait fait comme choix stratégique de nouer des alliances en priorité avec des personnes et des groupes de personnes sans salaire. Sans forcément remettre en cause les liens qu'on pouvait avoir avec les syndicats, etc. Mais ce qu'on voit aussi en Europe de l'Ouest, on voit que c'est d'autres alliances qui ont été privilégiées. C'est plutôt avec dès l'après-guerre, c'était plutôt la CGT. Hein. On se tournait vers la CGT, les syndicats aussi de personnel. Voilà, on se tournait vers pour le dire assez simplement, des groupes de travailleurs, de travailleuses, qui sont dans des secteurs d'activité très syndiqués historiquement, et qui ont réussi à avancer sur des barèmes de salaire qui s'imposent aux employeurs, etc. Très institutionnalisé aussi, hein, voilà. Donc il y a ce choix aussi, est-ce que ce choix d'alliance, pourquoi pas aussi se tourner davantage vers les syndicats, avec toutes les questions qu'il y a derrière, c'est des questions d'identité de classe aussi, hein. Est-ce qu'on se sent plus proche des personnes sans salaire, quand on se mobilise pour le salaire étudiant, est-ce qu'on se sent plus proche d'elles, ou est-ce qu'on se sent plus proche des syndicalistes de ce monde-là, ou alors éventuellement d'autres collectifs, voilà, c'est ça que ça charrie aussi la question des alliances. Ce qu'il y a derrière aussi, une autre question importante, je pense, c'est la question des modes d'action. Comment on mobilise concrètement? Il y a plein de choses derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne cherche pas aussi à se mobiliser davantage à l'international? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un enjeu en France à appuyer très très fort cette future grève des Québécoises pour ensuite se servir de ce qu'elles ont obtenu pour envisager d'autres perspectives en France, voilà, est-ce qu'il n'y a pas, c'est ce que discutent les syndicats étudiants suisses par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire en vue d'une future grève des femmes en mars prochain ou voilà au printemps prochain, une future grève des femmes, est-ce qu'il n'y a pas des liens de ce type à construire plutôt et puis se préparer, lier des modes d'action à ça, il y a tout ça qu'il y a derrière, et notamment la grève, voilà, la grève, vous voyez que c'est quand on veut présenter les étudiants et les étudiantes comme travailleurs, travailleuses, c'est quand même un mode d'action qui déjà est un coup de force symbolique. Réussir une grève, montrer qu'on peut faire grève, c'est aussi montrer qu'on est des travailleurs, des travailleuses comme les autres. Après, il faut voir à quel moment, peut-être à quel moment on fait grève, comment, dans quelle temporalité. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être faire une grève des stages ou une grève de l'apprentissage? En Suisse, c'est beaucoup l'apprentissage, la réalité. tu vois, pourquoi pas une grève vraiment de l'apprentissage, parce que c'est là qu'on peut peut-être faire le plus mal économiquement. Mmh. C'est peut-être ça aussi, c'est ce type de questions qui se posent, à mon avis. Et de pistes, parce que c'est autant de pistes, mmh. Il y a des réponses déjà.
On est obligé de faire le lien entre ce travail qui serait reconnu comme le travail des étudiants avec le reste de la société, quoi, plus globalement. Quel est le statut du travail dans notre société et comment se réapproprier une organisation autonome, quoi, de voilà, sur tous les plans, quoi. Donc bon, mais bon, là on part après dans des discussions.
Oui, parce que toi, tu es donc adhérent du réseau Salaria.
Oui.
Donc, tu as parlé de Bernard Friot qui avait suivi ta thèse.
Ouais.
Donc, ton bouquin parle du salaire étudiant, mais en vrai, tu es un militant du salaire à vie. Quelle est ta stratégie ou pourquoi, finalement, tu ne parles pas de salaire à vie directement et que tu parles de salaire étudiant?
Même avec le salaire à vie, on peut varier les entrées, les angles d'attaque. Encore une fois, pour parler à certains publics, moi, voilà, mine de rien, je le vois depuis un an, le livre est l'occasion de parler avec des étudiantes et des étudiants du salaire étudiant et de suggérer, enfin aussi de lancer des discussions. Des fois, c'est le public qui lance les discussions sur le salaire à vie. Donc voilà, c'est une entrée... en particulier, moi je trouve le salaire à vie, c'est aussi voilà, une autre lecture du travail. On cherche, enfin il y a quelque chose de commun avec le salaire étudiant. Moi j'essaie d'insister sur cette dimension. En fait, les militants, les militantes du salaire à vie ne sont pas les premiers en fait à aborder ce type de réflexion. On peut revendiquer le salaire étudiant et se confronter à ce type de réflexion. Ça a été systématique. Après-guerre, en Europe de l'Ouest, et c'est aujourd'hui quand même assez systématique chez les comités québécois que j'ai évoqué. On cherche à dégager quand même, à dessiner une conception du travail qui serait débarrassée de toutes les oppressions, toutes les dominations, et on lance ce combat politique pour les stages, la rémunération des stages étudiants ou le salaire étudiant au nom de cette volonté qu'on a aussi de débarrasser le travail de ses aspects les plus capitalistes, patriarcaux, de l'homophobie. Ça existe au Québec. Et donc on sent aussi la volonté, même s'il n'y a pas forcément les arguments qui sont ressortis aujourd'hui au Québec, de débarrasser aussi le travail de ces d'autres systèmes d'oppression, comme le racisme, où on parle beaucoup d'agisme aussi. Enfin, de plus en plus, j'ai l'impression de débarrasser le travail de ces dimensions les plus oppressives et de construire une autre conception du travail qui donnerait lieu quand même à un salaire et qui serait aussi légitime, voire plus que le travail, la conception capitaliste ou patriarcale du travail. Vous sentez quand même cette volonté?
J'ai vu que tu étais membre de l'Institut européen du salariat. Qu'est-ce que c'est?
Oui.
Et qu'est-ce que ça fait?
ce sont mes amis chercheurs, qui sont. Dont Bernard Friot, voilà. Qui travaillent sur l'existant, en gros, sur les droits sociaux émancipateurs existants et la façon aussi dont ils sont remis en cause, hein, la façon dont on cherche à les remettre en cause en gros en insistant souvent sur la façon dont ils remettent en cause les aspects les plus progressistes du travail qui se dégage avec les droits sociaux existants. Donc pour être plus clair, voilà, on a un collègue, Mathieu Grégoire, qui travaille sur les intermittents du spectacle, qui a fait un beau livre sur les intermittents du spectacle. On a d'autres collègues qui travaillent sur les retraites à la suite de Bernard Friot. Vous avez aussi des collègues qui réfléchissent sur le travail associatif, le travail gratuit, parce que voilà, ils ont l'impression, je pense à Maud Simonet, ou il y avait aussi Mathieu Elie qui réfléchissait là-dessus, il y a Florence Yadaden aujourd'hui qui a fait une thèse sur le service civique, qui réfléchit sur cet aspect-là, parce que pour elle et lui, c'est une nouvelle exploitation qui se dessine et qui a des dimensions voilà, patriarcales. Mmh. Donc, voilà, il travaille beaucoup beaucoup là-dessus.
D'accord. Du coup, on peut se connecter à ce site-là et lire en fait différentes publications.
Tout à fait.
Et comment, qu'est-ce que vous faites de ça?
Enfin, on subit un contexte universitaire qui est pas évident, mais ce que donc on essaye de créer des savoirs, de rediscuter d'autres connaissances au quotidien. Ça passe par une réunion mensuelle. Ça se passe. Cette année, il y a beaucoup de discussions autour de la valeur. Tout le monde c'est à Nanterre, mais c'est tout à fait ouvert, passer à ces réunions mensuelles pour voir concrètement qu'est-ce qu'on fait. Nos relations à l'extérieur, c'est aussi des notes de l'IES, des notes de l'Institut européen du salariat. C'est 4 pages. Il y en a une quarantaine depuis 5-6 ans. Et donc, qui, sous un format un peu plus court, 4 pages, propose une autre expertise qui puisse donner des outils aux personnes mobilisées et aussi aux syndicalistes pour défendre davantage ces conquêtes qu'on apprend comme des conquêtes du salariat en France et puis en Europe. Pour nous, ce sont la sécurité sociale, voilà, l'indemnisation chômage, l'intermittence du spectacle, ce sont des conquêtes sociales. Il y a eu des luttes et ça a mené à la construction d'une autre économie qui s'est amorcée. Et donc, on fournit des éléments d'expertise là-dessus, pour des fois d'actualité, hein, pour aussi faire connaître ces éléments-là et puis potentiellement aider les personnes à mieux se défendre collectivement, à mieux défendre ces conquêtes.
Qu'est-ce qui fait qu'on est complètement englué et qu'on a le sentiment qu'on peut juste revendiquer d'avoir moins de frais d'inscription, moins de prêts, moins de... et pas la gratuité en tant que telle, le salaire étudiant en tant que telle? Qui nous a mangé le cerveau et comment, quoi?
La grosse question, oui, ça va au-delà de l'enseignement supérieur. Je pense que c'est des questions qui touchent à tout le mouvement social. Je pense que, mine de rien, on a quand même on a eu tendance à considérer que la décision... Il y a une conception de l'État, je pense, derrière. Enfin, on a tendance à considérer que la décision... ben voilà, ça se fait au moment des élections, ça se fait aussi à l'initiative des gouvernements, des parlementaires, alors qu'on vit quand même, enfin, en France, pour le cas de la France, on vit dans un système institutionnel qui est complètement, qui doit être, enfin, c'est De Gaulle qui l'a inventé, donc on est dans un système politique, faut pas s'étonner que aussi qu'il n'ait pas été fait forcément pour faire passer des choses très, très progressistes, quoi. Et aujourd'hui, on a ce système politique et je pense qu'il nous paralyse, notamment parce qu'il est paralysant en tant que tel, hein, mais aussi parce qu'on a tendance à penser que la décision se fera forcément là aussi, peut-être, et que tout dépend de ces élections et que... Voilà, une mobilisation, c'est toujours, ça a tendance toujours à être adossé à un calendrier électoral, à ce contexte politique-là. Alors on nous parle de négociation. Voilà, quand une mobilisation réussit aujourd'hui, il va falloir négocier. Au Québec, par exemple, la négociation, pour l'instant, c'est pas des choses... non, c'est l'adoption des revendications. Enfin, il n'y a pas de négociation c'est pas au cœur des discussions. On se mobilise pas pour négocier. Non, on se mobilise et on revendique parce que c'est une étape vers quelque chose d'autre. On se mobilise aussi sur d'autres temporalités. C'est pas le mois prochain, la temporalité. Hein. C'est des années, peut-être, de lutte qui s'annoncent comme après-guerre. Hein. Après-guerre, 51, si on est à deux doigts du salaire étudiant, ça démarre en 43, en fait. Hein, ce que je détaille dans le livre, là, c'est ça. C'est 8 ans de lutte. Hein, Et là, c'est peut-être... il faut quand même peut-être 8 ans de lutte aussi. Il ne faut pas se le cacher pour qu'on regagne la bataille des idées. Et peut-être aussi penser que la revendication, ce n'est pas forcément destiné à être appliquée. Ça a d'autres vertus, une revendication, et notamment une revendication radicale. C'est un outil. C'est aussi un prétexte pour changer les mentalités. Ça n'est pas que... Alors, c'est intéressant, hein, toujours, de faire... Voilà, c'est concret, c'est un horizon désirable, etc. Ça a des vertus internes dans des collectifs. Ça permet... Enfin, moi, je l'ai vécu. Ça permet de souder aussi un collectif militant, de dire, ah ben voilà, on va vers ça, quoi. Enfin, on va vers ça, concrètement, on va vers ça. Il n'y a pas... N'ayons pas de doute, etc. Mais peut-être qu'on est très pro, on cherche à faire de nos revendications un programme électoral. Mmh. Et alors que non, nos revendications historiquement c'est plutôt syndical ou c'est politique. C'est plus ça vient de la base, voilà. Et les personnes mobilisées, elles s'en servent aussi. C'est un outil pour aller vers quelque chose de radicalement différent, mais qui n'est pas forcément collé au calendrier électoral gouvernemental. La revendication, ça peut aussi être un prétexte pour parler d'autre chose et faire bouger fondamentalement les mentalités. Mmh.
Est-ce que quelqu'un a d'autres questions, ou toi, tu aurais des choses à ajouter, ou des choses que tu as envie de raconter?
Vous voulez une anecdote?
Ouais.
Bon, après, ça remonte à... Et ben c'est sur les congrès de l'UNEF de l'après-guerre. L'UNEF, à l'époque, quand je dis que c'était un combat permanent, c'était même au sein de l'UNEF. À l'époque, à l'UNEF, il y a Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est à l'UNEF.
Après-guerre, tu parles.
Oui, après-guerre, en 1950, il est délégué notamment de l'université Assas, qui est une université à Paris, notamment de droit, mais qui est situé souvent à droite, voire à l'extrême droite, et c'était déjà, après-guerre, c'était déjà un peu le cas, et donc lui, il est là pour représenter cette Assemblée Générale, et en 1950, il est face aux militants du salaire étudiant qui présentent le projet d'allocation d'études qu'ils ont ficelé, qui ressemble à un texte de loi, donc ils le présentent, etc. Et le délégué Le Pen intervient à ce congrès sur un seul article. C'est l'article qui concerne les étudiants étrangers. Et il intervient de façon très... c'est pas le Le Pen qu'on a pu voir aussi ensuite, mais parce que le rapport des forces de l'époque n'est pas en sa faveur. Mais donc il intervient de façon très, très, très courtoise pour dire qu'il n'a pas bien compris ce qui était prévu pour les étudiants étrangers. Est-ce qu'ils recevraient l'allocation d'études ou le salaire? Et la réponse aussi très, très, très courtoise, mais assez ferme du syndicaliste qui présente le projet, c'est marqué à l'article untel, je ne sais pas si c'est le 22, j'ai un vague souvenir du 22, mais c'est marqué à l'article 22, nous allons prévoir d'octroyer ce salaire aux étudiants étrangers, mais nous allons mettre une condition, seuls les étudiants étrangers qui viennent de pays qui donnent le salaire étudiant aux étudiants français pourront bénéficier de cette mesure. Non pas qu'on est contre les étudiants étrangers, mais parce que de toute façon on militera pour qu'ils aient au moins une bourse ou quelque chose de moins, mais parce qu'on estime que l'extension du salaire étudiant dans d'autres pays, qui est un de nos objectifs puisqu'on est assez internationaliste à l'époque, l'extension du salaire étudiant dans d'autres pays passe aussi par ce rapport de force avec des dirigeants d'autres pays pour qu'ils acceptent d'accorder le salaire étudiant dans leur pays aussi également. Autant dire que Jean-Marie Le Pen, vu la qualité de cette réponse qui est quand même d'une grande qualité, n'avait rien à répondre à ça à l'époque. Parce qu'encore une fois, voilà, on s'était battu avant pour qu'il se taise.
Bien. Merci.
Merci beaucoup.
Merci Aurélien. Ben,
merci
Kesta.
À vous. On peut rappeler le titre de ton livre.
Un salaire étudiant, financement et démocratisation des études, aux éditions La Dispute. C'est 12 euros qui ne vont pas dans ma poche. Hein. Je le dis, c'est pour soutenir cette maison d'édition qui publie par ailleurs des bons bouquins.
Pas mal de Bernard Friot, d'ailleurs.
Donc c'est pour soutenir cette maison d'édition. Si vous êtes intéressé par peut-être le syndicalisme étudiant, les mobilisations étudiantes en France, on a sorti aux éditions Cileps. Là aussi, c'est pour ces éditions, hein, le prix que vous payez. Un ouvrage qui s'appelle « L'autonomie en mouvement ». C'est revendications et mobilisation des étudiants sur l'histoire du syndicalisme en France, en abordant tous ces aspects les plus récents aussi. Il y a c'est un ouvrage collectif avec des textes extrêmement intéressants, pas tous aussi historiques que ce que j'ai pu évoquer avant, etc. Et si vous êtes intéressé par la tradition nord-américaine du salaire étudiant, ils ont réédité le manifeste pour un salaire étudiant qu'ils diffusaient dans les années 70 aux États-Unis, en français et en espagnol et en anglais. Et c'est diffusé par un éditeur français que vous pouvez contacter si vous avez envie d'accéder à ce livre qui s'appelle Wages for Students, des salaires pour les étudiants, ça a été traduit comme ça. Si, vous, si notamment les aspects les plus antipatriarcaux du salaire étudiant vous intéressent. Les comités unitaires sur le travail étudiant, allez-y, c'est rafraîchissant aussi. Ils font des super vidéos sur leur site, etc. J'en ai encore vu, c'est vraiment pas mal. Des vidéos d'ailleurs qui servent à aller chercher des personnes qui ne sont pas convaincues par le salaire étudiant, vous le voyez tout de suite, et puis voilà, vous apprenez plein de choses. Ces comités sont vraiment rafraîchissants.
Je rappelle que Radio Piquet est une radio qui fonctionne sans pub, sans subvention. Vous pouvez nous aider en donnant 1, 2, 3 euros par mois sur Hello Asso en allant sur le site de Radio Piquet. Fais-nous signe quand tu reviens sur Brest.
D'accord, ok.
Voilà, et à bientôt. Bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée.
Salut.